Bonjour à toutes et à tous, ceci est la troisième partie de notre reportage slash interview sur les arts de l'ODEV. Voilà l'entretien que nous avons eu avec Jean-François Aubert au cours de la fameuse nocturne qui s'était déroulée le samedi 14 décembre de l'année précédente à l'Appart. Jean-François Aubert, qui est un artiste aux multiples pratiques, l'exposition qui se trouve à la galerie Aux Marches du Palais à l'ODEV témoigne bien de cette affirmation. J'ai eu l'occasion de visiter l'expo en compagnie du monsieur ainsi que de Sophia Burns et Potentiel Jeune. On y découvre sculptures, tableaux datant de différents moments de la carrière de Jean-François Aubert et qui ont tous plus ou moins la caractéristique d'être satiriques, usant de métaphores, de jeux de mots, remplis aussi de références. D'autres travaux, quant à eux, rentrent carrément dans l'abstraction. Aujourd'hui, monsieur Aubert nous parle de son art, de comment gagner de l'argent avec l'art, de ses techniques, de son humour et de ses différentes réflexions qu'il a pu avoir au cours de son long et riche parcours.
Je m'appelle Jean-François Aubert. J'ai commencé ma carrière dans le dessin d'une manière un petit peu bizarre. C'est-à-dire que j'étais destiné aux Beaux-Arts et puis le voisin, ingénieur à la Compagnie Nationale du Rhône, a conseillé à ma mère que les Beaux-Arts c'était bon pour les cheveux longs et les traits de misère et qu'il valait mieux que je fasse dessin industriel au lycée technique d'en face. Donc je suis devenu dessinateur en construction mécanique. Mais artiste, technicien, au bout de quelques années d'études, le mélange était très bien pour la photographie. Donc je me suis formé dans la photographie, dans l'armée de l'air. J'ai quitté l'armée de l'air et je suis devenu photographe. 21 ans exactement, j'ai été photographe. Une petite fatigue. Le commerce, le business détruit la passion. Et que faire ? Ben, je suis retourné à mes amours d'origine, c'est-à-dire le graphisme, l'art graphique, la sculpture, la peinture, etc. Et je me suis installé donc artiste plasticien. Donc depuis maintenant 20 ans. Bon alors 20 ans plus 20, ça fait beaucoup, ça fait 40. Effectivement, maintenant, j'ai terminé mon activité professionnelle administrativement, mais je la continue pour le plus grand plaisir de plein de gens, et puis surtout le mien.
Sur quoi tu travailles? On a pu voir des tableaux notamment faits de papier, de carton. Qu'est-ce que tu recherches en fait un peu en tant qu'artiste et pourquoi ces matières?
À l'origine, mon travail était très complexe, très académique. La figuration, la plus précise possible. Travail à la plume, travail sanguine, travail tout dans toutes les traditions académiques de l'art graphique. On passe à l'acrylique assez facilement parce que ça sèche plus vite, les gestes deviennent plus larges, ça se modernise avec le temps et des recherches permanentes. Alors les recherches d'un artiste sont en fonction de ses capacités manuelles, de ses capacités techniques, de ses connaissances des matériaux, de ses sensations avec la matière, avec plein de choses qui nous entourent, orientent un petit peu l'activité artistique et le choix des thèmes et des sujets. Donc moi, j'ai passionné d'histoire, j'ai travaillé dans la reproduction de fresques antiques, donc de la peinture murale, de la peinture pariétale et plein d'autres choses dans ce genre-là. Le grec, le romain, l'égyptien, le précolombien, le bochiman, le préhistorique. Donc ça m'a donné l'occasion de faire des copies, pour des administrations d'ailleurs, des copies qui ont servi de modèle pour plein d'activités, plein de choses, des recherches de financement surtout pour ces lieux-là. Ensuite, la sculpture et l'art ethno-techno, orienté par une révolte contre les décharges publiques, des décharges publiques qu'il y en avait de partout. Donc c'était un petit peu ignoble quand même, parce qu'on trouvait des cadavres de bestiaux, des bagnoles abandonnées, des ossées, des vieilles motos, des scooters, etc., des téléviseurs, des frigos, et tout ça a été recouvert de terre systématiquement d'année en année. C'était pas quelque chose de très acceptable. Donc en puisant en matériaux dans ces endroits-là, est née la sculpture ethno-techno. Alors ethno, parce que l'ethnologie, bien sûr, c'est la vie de l'homme, c'est ce qui se passe, bien sûr, dans ces décharges publiques, toutes les traces de la vie de l'homme. Techno, parce que c'est de la technologie, donc oubliée, rouillée, oxydée. Et donc là, elle est remise en forme, sous forme de personnages, sous forme de tableaux. Il y en a quelques-unes qui me restent, parce que ça a pas mal d'années quand même, 30-35 ans, qui sont exposées aux Marches du Palais, et ici, ainsi qu'ici à l'appart. Donc c'est composé de matériaux récupérés, électroniques, mécaniques, Et tout est composé d'une manière figurative, c'est-à-dire que ces déchets organiques, c'est comme s'ils avaient été redéterrés et une recréation de nouveaux dieux, de nouvelles entités issues d'un passé peut-être oublié. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais la simplicité de la chose, c'était plutôt la révolte contre ces choses-là. Une grande série de ces sculptures ont servi à l'inauguration de la maison de l'environnement du département de l'Hérault au domaine de Restinclière, 93 je crois. J'ai oublié, le temps passe vite. Ensuite, on bascule sur comment gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent en faisant de l'art ? Bon, alors on fait du beau dessin, on fait le portrait de la mamie, figuratif, dans les grandes traditions 19e. On fait la petite propriété de campagne pour le monsieur qui habite à la ville, mais qui veut garder une image très bucolique dans la tradition des personnes de cette époque-là. Voilà, donc la peinture s'imposait avec des beaux cadres dorés, ça se vendait bien. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer un ami, enfin, qui est devenu un ami, un artiste américain qui habitait la région, qui s'appelait Martin Berninstone, dessinateur de presse américain. Pour le situer, c'est lui qui a couvert beaucoup de procès aux États-Unis, notamment celui d'un de l'assassin de Kennedy. Cela a rendu célèbre, effectivement. Passant sa retraite dans la région, j'ai fait sa connaissance. Lui m'a présenté un architecte décorateur américain. Donc cet architecte décorateur m'a donné un travail, à savoir tout ce qui est rentré dans ces, à part le bâtiment qui était remis en forme par des professionnels du bâtiment, bien sûr, la décoration, il n'y avait que du meuble et du mobilier de designer. Aux États-Unis, quand on revend sa maison, on le revend avec le mobilier. Et le mobilier est très étudié pour l'ambiance, etc. Donc ça ne se détruit pas. Il prend ses papiers, ses photos, il s'en va, il laisse tout le mobilier en place. Donc moi, j'étais chargé de faire la toile qui va au-dessus du canapé. Symboliquement, hein, voilà. Là est née cette abstraction. Pour cet architecte décorateur, j'étais chargé de réaliser une image abstraite. Et une image abstraite, pour la bonne et simple raison, aucune thématique. D'où la naissance de cette technique du froissage du papier, l'application de la peinture sur les reliefs à main nue, refroissage du papier une fois qu'il est sec, d'autres couleurs, etc., etc. Ce qui propose une image un petit peu particulière qui ne s'explique pas, qu'il faut se voir. Donc aucun instrument, aucun outil pour réaliser ce travail que j'appelle informal painting, c'est-à-dire de la peinture informelle, telle qu'elle pouvait être à l'origine, puisque à l'origine c'était de la peinture informelle qui est devenue l'abstraction lyrique, l'abstraction géométrique, l'abstraction, etc., etc. Mais là, elle est d'une neutralité totale. On peut arriver des fois à retrouver des choses dedans, notamment des ambiances sonores. C'est pour ça que certaines sont sonorisées, pour pouvoir essayer de faire rentrer le visiteur un petit peu dans l'œuvre d'une manière un peu plus, non seulement visuelle, mais également auditive. Déjà nous-mêmes, sociétalement parlant, on n'est que du papier. On a un extrait d'acte de naissance, une identité, des compétences, des possessions, des autorisations, tout ça c'est du papier. Si on enlève tous ces papiers, on n'existe plus. Je vous enlève l'extrait d'acte de naissance, je vous dis. Au final, si vous n'avez pas l'acte de décès, vous continuez à payer des impôts aussi. C'est comme ça. Ça a très très bien fonctionné. J'avais la chance d'avoir en face de chez moi une grande propriété d'un grand patron du CAC 40. Amateur d'abstraction, avait flashé sur ce travail-là. Et souvent, surtout avec son épouse, ça leur plaisait énormément. Donc chaque fois, elle me convoquait, elle m'en achetait quelques-unes. Et ce monsieur s'en allait au Japon, Chine, États-Unis, avec sous le bras des cadeaux pour les gens qu'il allait visiter, et notamment mes toiles. Donc ça a permis de mettre, d'apporter de l'eau au moulin, un petit peu tout ça, économiquement, financièrement. Et puis, la restauration d'art. J'ai connu énormément de Saintes Vierges, auxquelles j'ai refait des couleurs, des saints dans les églises, des dorures sur bois, l'utilisation des connaissances en arts plastiques et des techniques des arts plastiques dans le mobilier. Parce que quelque part, on a beau être artiste, mais si on veut en vivre, des fois, il faut tricher. Et cette triche, pour moi, se basculer dans la restauration d'art. Voilà, l'artiste pur, est-ce qu'il existe vraiment maintenant ? Il y en a, mais... Il souffre. Moi, j'ai pas envie de souffrir. Et puis après, on mange à tous les râteliers. On fait des choses dans l'art. On utilise une technique, une présentation. Et cette technique, cette présentation, on la met en contact avec le public. S'il y a fonctionnement économique, eh ben c'est parfait. On garde le truc. Mais si ça fonctionne pas, si les gens disent « Ouais, bon, voilà », ben on abandonne. On laisse tomber. Et là, il s'est passé une chose, c'est-à-dire que j'ai inventé un personnage accidentellement. Une boule de papier froissé, écrasée, avec des yeux et des pattes. Bon, tout le monde a appelé ça, les gens de ma génération, des shadocks. Ça n'a rien à voir avec le shadock. La boule de papier froissé, utilisée comme image de l'exclusion et du rejet. C'est-à-dire, lorsque vous voulez jeter un document, on le met en boule, on vise la corbeille et on le jette. Parce qu'il est obsolète, inutile, dégueulasse, double usage, etc. Tous ces adjectifs sont utilisés dans notre société pour exclure quelqu'un d'un groupe. Et ces gens-là, arrivés à un moment donné, certains, les extrêmes, on les retrouve assis sur des marches d'escalier, sur des bancs, avec leur chien et leur sac à dos. Et bien sûr, ils se font virer par une concierge ou un uniforme. Donc, ils se sont appelés, mes petits personnages, des « faut pas rester là ». Et ces petits personnages sont mis en scène dans un travail du papier d'embossage. On appelle ça vulgairement, génériquement, le gaufrage. La langue française est très très précise. Le gaufrage, c'est un motif régulier. Il y a l'embossage. Avec l'embossage, comme les poilus de 14 sur les obus, déformer le métal pour faire des fleurs de lys, pour écrire des mots, pour faire des représentations sur du métal, lui donner des formes, lui donner un aspect figuratif. Ça, c'est dans le métal, c'est l'embossage. Et j'ai trouvé chez les Japonais, les estampes japonaises, il y a donc la sculpture d'un bois qui correspond à une couleur, un deuxième bois à une autre couleur, et ainsi de suite jusqu'à plusieurs couleurs. Et chaque feuille est appliquée sur chaque bois de chaque couleur pour former l'image finale. La dernière, le karazuri. Karazuri, ça veut dire passage à blanc, passage à vide. C'est-à-dire qu'il y a juste la forme dans le bois. L'estampe est humidifiée, appliqué sur ce bois, et avec le pouce, l'artiste appuie pour faire déformer le papier et donner du relief. Donc c'est cette technique-là que j'utilise pour faire ces reliefs en fond, dans lesquels il y a du texte, dans lesquels il y a des explications, dans lesquels il y a des décors. Et sur ces supports-là, qui sont colorés, peints, rentre en scène le « faut pas rester là ». Donc les thèmes sont bien sûr sociaux, il y en a quelques-uns, la littérature, la poésie, quelques petites observations philosophiques, diverses et variées, des petits bonheurs, tout ça d'une simplicité maximum, mais un petit peu valorisé et surenchéri par cette déformation du papier en arrière-plan qui permet de différencier d'un collage basique sur un support avec une image aplatie. Il y a du relief, il y a du... voilà. D'autres artistes, quelques parodies. J'utilise, bien sûr, avec Soulages, avec Yves Klein, avec Christo. C'est très difficile à exprimer une image par du vocabulaire. C'est quelque chose qu'il faut absolument aller voir à l'appart ou en ce moment au Marché du Palais où il y en a une grande collection qui est exposée.
Alors ici, vous avez les petits jeux de mots. Blanc, c'est pas nul. Rouge, c'est raide. Parce que quand vous êtes en rouge à la banque, vous êtes raide. Hein.
In the red.
Et puis le fameux noir, ça soulage. Donc vous retrouvez ici du bois roi, parce qu'avec cette technique d'embossage papier, je peux faire plusieurs modèles. On n'a jamais les mêmes couleurs, donc on a un exemplaire différent chaque fois. Et ce qui m'a fait penser à Ubu, c'est M. Sarkozy. À l'époque, quand il était président, chaque fois il disait « Mais nous sommes dans une situation ubuesque ». Chaque fois, j'ai dit « Moi, j'ai trouvé quand même qu'il ubusait de la situation, quand même, quelque part ». On tombe amoureux, c'est par là. Le tableau suivant, il est pendouille là-bas. Ça s'appelle juste un fil. C'est-à-dire que si vous tombez amoureux, c'est par là, donc soit ça ne tient qu'à un fil, soit vous avez le fil à la patte.
Comme tu viens de dire, en parlant un peu de tes œuvres, il y a des parodies, il y a aussi du jeu de mots. La manière dont tu parles de tout ça est de manière assez décontractée et même rigolarde, sans manque de sérieux. Est-ce que c'est important pour toi, l'humour ?
Ah oui, oui. Ah oui, oui, impératif, l'humour est essentiel. Dans ce domaine-là d'origine, où il y a quand même une grande tristesse, quand par exemple, quand Dante descend aux enfers et qu'il lit sur la porte des enfers « Lasciato ogni speranza, voi che entrate », toi qui entres, abandonne toute espérance, c'est dramatique quand même, tout ce qui va se passer. Donc effectivement, là, il y a dans ce cadre-là un triptyque où on voit à la queue leu-leu, mais il ne faut pas rester là, en premier pas, « Lasciato ogni » pour le premier tableau, pour le second, « Speranza, voi », d'accord. Et là, il commence à freiner, là, parce qu'il commence à arriver devant une drôle de machine, une broyeuse. Et le dernier tableau, « Speranza », dernier tableau, on a le papier qui est littéralement broyé, comme passé dans la machine destructeur de papier, vous voyez. Là, on a une image qui est comique, qui est rigolote, parce que ces personnages de toutes les couleurs, etc., qui freinent, qui, d'une manière figurative, ont des expressions, et puis au final, finissent en papier broyé. C'est dramatique, mais c'est présenté d'une manière acceptable. Pour donner un exemple, j'ai un ostéo des environs qui m'a acheté cette œuvre, pour mettre ça dans sa salle d'attente. C'est-à-dire un ostéopathe qui met ça dans sa salle d'attente, toi qui rentres, abandonne toute espérance, c'est quand même spécial, quoi. Il y en a un autre sur migration. Alors migration, on voit deux, faut pas rester là, sur un fil. Sur le tableau suivant, ils deviennent quatre. Sur le tableau suivant, ils deviennent six, mais le fil commence à plier, commence à courber sous le poids. Et le dernier tableau, ils sont tous écrasés au fond. Effectivement, l'image des oiseaux sur un fil, si le fil casse, les oiseaux ne vont jamais tomber au fond, quoi. Mais en arrière-plan de cette succession d'images, il y a un autre thème. En arrière-plan, on a ces fameuses migrations en Méditerranée qui arrivent en seconde pensée, perturber l'histoire rigolote qui se raconte là.
On peut te trouver donc aux marges du palais, mais aussi tu exposes à l'appart. Comment tu t'es retrouvé dans ce lieu à l'Odève?
Eh bien, en fin de compte, c'est Jean-François qui s'est installé ici au rez-de-chaussée, dans un local disponible. Puis petit à petit, lui, il est un peu expansif, hein, donc il a utilisé les communs. Il m'a invité à déposer une caisse avec mes œuvres. Moi, j'étais en galerie, hein, donc voilà. Il m'a dit, si tu veux, tu amènes une caisse avec tes œuvres, puis j'en fouille. Puis après, il m'a proposé un mur. Le mur est devenu deux murs. Économiquement, pour lui, je pensais que c'était relativement intéressant que je participe de fil en aiguille en quelques semaines. Et puis bon, comme on s'entend bien, il y a eu une bonne entente, ça marchait très bien. Et puis diversification aussi, donc recherche d'autres artistes. Parce qu'un atelier d'artiste est toujours le même artiste, c'est bien. Mais s'il y a complémentarité avec d'autres artistes, il y a le lieu s'enrichit quelque part. Voilà, les visiteurs sont un peu accaparés par plusieurs personnages, par plusieurs artistes, et c'est quelque chose de bien. On ne vient pas ici pour rien.
Du coup, ça te plaît? Tu comptes rester encore longtemps à l'appart ou exposer même d'autres choses dans le futur?
Ah, mais moi, je varie énormément. D'ailleurs, là, les « Faut pas rester là » sont partis ailleurs, sont partis dans les cartons, pour éviter que, justement, les gens qui viennent ici se retrouvent toujours avec le même artiste. Moi, je suis très diversifié, donc j'ai fait des expositions avec l'abstraction informelle. J'ai fait des expositions avec le carton, une nouvelle technique de fabrication d'œuvres d'art avec du carton découpé, superposé, coloré, etc. Donc des portraits, Andy Warhol, Basquiat, Kessaring, même l'audace de copier du Picasso. Très audacieux, mais c'est tellement beau, Picasso. Et le fait de le copier, on le comprend. Le copier comme ça, on rentre un peu plus dans son travail et souvent, on a tendance à le modifier et en fin de compte, on se force. Il faut se forcer pour rester dans le Picasso. Et ça, c'est extraordinaire. Ou alors d'autres créations avec un petit peu d'humour, comme sur la chute des corps avec Isaac Newton. Alors effectivement, l'image est un petit peu choquante parce que c'est Newton qui est en train de rêver, donc il tombe dans le vide, mais c'est la nuit, il dort, il est tout nu. C'est sobre, c'est quand même sobre, quelque part. Ou le mouton, alors j'ai un mouton qui est en train de sécher, effectivement, enfin il n'est pas en train de sécher réellement, il est mis en situation de séchage, tout en carton découpé, effectivement. C'est le mouton de Panurge. Alors, Panurge, pour se venger d'un maquignon qui se moquait de lui, lui a acheté un mouton, c'est sur un bateau, hein, et il l'a jeté à l'eau. Les autres moutons ont suivi. Alors, dans l'histoire des moutons qui suivent, on ne retient que les moutons de Panurge, c'est-à-dire ceux qui suivent. Et moi, j'ai voulu mettre l'accent sur le mouton qui a été jeté à l'eau. Parce que ce mouton, c'est la seule victime dans l'histoire. On a deux belligérants, on a une victime qui sert de propagande et tout le monde croit la propagande. On est dans l'actualité, là, hein, quelque part. Donc, je n'ai pas fait exprès. Cette remarque du mouton innocent qui a été jeté à l'eau, lui, il ne voulait pas aller à l'eau. Hein. Jamais personne n'a mis le doigt dessus. Voilà, moi, j'ai mis le doigt dessus.
C'était notre avant-dernière partie sur les arts de l'Odève, en espérant que l'écoute vous aura été agréable. Vous pourrez retrouver parfois Jean-François Aubert sur l'appart 13 Place Alsace-Lorraine à l'Odève, pour rappel. Et si vous ne le croisez pas, la pièce où sont présentées quelques-unes de ses œuvres est toujours ouverte. La prochaine fois, j'aurai le plaisir de vous faire découvrir les travaux de Xavier Dole, artiste amoureux d'images qui a installé très récemment son atelier à l'appart et qui a présenté son exposition Les boules funéraires du 2 novembre au 10 décembre dernier. Une excellente journée sur RPH et RPH Sud, à la prochaine.